c'est Info Club Sandwich. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative, réalisée par Radio Campus Amiens, disponible sur le 87.7 FM, en DAB+, et sur radiocampusamiens.fr. Nous sommes le vendredi 6 mars 2026, aujourd'hui je suis avec Colline, qu'on écoutera pour l'interview, et je vous propose en deuxième partie d'émission un agenda culturel et quelques annonces spéciales. On écoutera Épouvantail d'Unisature et Watch the Corners de Dinosaur Junior. Mais d'abord, on écoute Colline.
Cécile Berger, bonjour.
Bonjour.
Tu viens présenter ton deuxième livre sorti en avril 2025, Le Coucou de Papier. Et cette fois-ci, tu t'attaques à un autre style littéraire, la fiction. Donc on t'a déjà reçu dans les studios de Radio Campus Amiens pour parler de ton premier livre, Une bougie de plus. Cette fois-ci, tu t'attaques à la fiction. Quelle est la différence dans le processus d'écriture ?
Alors, il y a beaucoup, beaucoup de différences parce que quand on écrit notre vie, notre récit de vie, je me suis posé la question de est-ce que j'allais pas blesser quelqu'un ? Est-ce que j'allais pas dire des choses que certains ne voulaient pas que je dise de mon entourage, etc. Bon, j'avais décidé de tout dire, de réfléchir à la façon de le dire, mais de tout raconter sans qu'il y ait de tabou, etc. Mais voilà, on se pose la question sur l'impact que ça peut avoir. Par contre, on ne se pose pas la question du contenu, puisque on veut raconter la vérité, donc ça nous est imposé. Là, dans la fiction, c'est tout le contenu. La grande question, c'est justement, est-ce que ça va être crédible ? Est-ce que ça peut plaire ? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas trop plat ? Est-ce que, enfin voilà. Et puis, est-ce que c'est réaliste aussi ? Parce que mon but, c'est toujours de me rapprocher vraiment des gens, des lecteurs, que ça leur fasse écho vraiment par rapport à leur propre vie ou voilà, que ça les fasse réfléchir, mais par rapport à la réalité. Donc c'est tout le processus de création qui est tout à fait différent, en fait.
Et alors, pourquoi est-ce que tu as décidé justement de te lancer dans ce nouveau processus de création ?
Parce qu'en fait, au départ, au tout début de mon souhait d'écrire, j'étais partie sur une idée de fiction. Sauf que j'avais créé des personnages, j'avais créé des lieux, des choses comme ça, mais je n'avais pas le nœud de l'histoire. Je n'arrivais pas à trouver une histoire qui nous accroche assez. Et c'est suite à ça, en fait, que je me suis lancée dans le récit de vie, parce qu'en fait, là, pour le coup, c'était plus simple, le contenu était plus facile à trouver. Et puis, j'avais des choses à dire, en fait, par rapport aux épreuves, etc., que j'ai traversées. Donc, voilà. Et du coup, ça a été un peu naturel, finalement. Une fois que j'avais fait le premier, qui avait plutôt bien marché, ça a été assez naturel d'écrire une fiction, mais tout en ne sachant pas si j'allais réussir à trouver vraiment une histoire qui tienne la route, etc. Mais voilà, ça m'a semblé assez naturel, surtout qu'en plus, au niveau de l'autobiographie, comme j'avais traité, entre guillemets, toute ma vie, j'avais pas fait juste par rapport à un sujet, etc. Donc, pour moi, j'avais fait le tour au niveau de l'autobiographie, de toute façon.
Et alors, Le Coucou de Papier, de quoi est-ce que ça parle ? C'est sorti donc il y a presque un an, en avril 2025. De quoi est-ce que ça parle ?
Alors, c'est l'histoire de Maggie, qui subit un peu sa vie, hein, qui s'est enfermée dans une vie avec son mari. En fait, elle s'est enfermée un peu par amour dans cette vie par rapport à ce que lui souhaitait. Et puis, elle se rend compte que ça ne correspond plus à ce qu'elle veut. Et donc, elle décide de partir. Sauf que elle a ses deux enfants, elle décide de partir sur un coup de tête. Parce que le ras-le-bol, en gros. Elle n'a pas réfléchi à la façon de rebondir, que ce soit matériellement déjà. Donc c'est toute l'histoire de sa reconstruction matérielle, mais surtout psychologique, puisqu'il faut qu'elle reprenne confiance en elle, étant donné qu'elle a perdu toute cette confiance-là, justement, parce qu'elle s'est enfermée dans cette bulle, elle ne travaille plus, etc. Donc elle est persuadée qu'elle est capable de rien. Donc c'est toute l'histoire de sa reconstruction, en fait.
Et alors pourquoi Le Coucou de Papier ?
Alors, le coucou, tout simplement parce que Maggie, elle va s'installer dans une maison qui ne lui appartient pas. Et le coucou, c'est un oiseau, justement, qui va déposer ses œufs dans le nid des autres. Donc, c'est par rapport à ça, en fait, le coucou. Et le fait que ce soit de papier, c'est tout simplement parce que c'était pour faire écho à sa fragilité, finalement. Voilà.
Et peut-être aussi un signe par rapport à la fin du livre dont on ne va pas évoquer.
Voilà.
Voilà, on va garder un peu de suspense quand même.
Tout à fait.
Dans ce livre, donc, tu parles de Maggie, c'est une femme qui quitte son mari avec ses enfants après avoir subi de la violence psychologique. C'est surtout ça aussi. Pourquoi est-ce que tu as choisi de parler de ce type de violence spécifiquement ?
Parce qu'en fait, c'était, en fait, je suis pas partie sur l'objectif dès le début de me dire je vais partir sur une violence psychologique. Je me suis dit je vais essayer de raconter ce que beaucoup de gens vivent, pas forcément une femme d'ailleurs. Ça aurait pu très bien être un homme, mais qu'on s'enferme dans des vies qui, enfin je dis on, c'est pas forcément moi, mais il y a beaucoup de gens en tout cas qui s'enferment dans une vie qui ne leur correspond pas, etc. Et qui, en fait, qui subissent leur vie. Et là, je voulais raconter justement l'histoire d'une femme qui subissait, mais je voulais que ce soit parlant. Et souvent, quand on subit, ben, on n'est plus bien dans sa vie et il y a plein de choses qui s'y ajoutent. Et au final, ça se dégrade petit à petit. Et là, bah, son mari non plus, ça lui va pas cette vie finalement, même s'il le dit jamais. Mais finalement, ça lui va pas. Et c'est du coup toute cette violence psychologique, pardon. C'est un trait qui ressort de leur mal-être à tous les deux finalement. Mais c'était vraiment pour pour montrer que bah parfois on. Ouais, on peut s'enfermer dans des situations qui nous bloquent un peu et voilà, c'est un peu, je sais pas comment le dire, mais c'est en fait elle s'enferme dans cette vie, mais s'il y avait pas eu de violence, en fait, elle aurait peut-être pas eu le déclic, cette violence psychologique, il y aurait peut-être pas eu le déclic pour qu'elle parte. Mais c'est un déclic parmi d'autres finalement.
Oui, parce qu'il dit quand même des choses très dures. Enfin, bien sûr. Il dit des choses où, voilà, on comprend aussi pourquoi Maggie s'en va.
Oui, oui, bien sûr. Mais je voulais aussi montrer que parfois, on peut être mal sans qu'il y ait une violence physique, mm-hmm. par contre. Et la violence psychologique, je pense qu'elle fait autant de mal. Et parfois même avec des petits mots, là, c'est des mots durs qu'il prononce, mais parfois même des mots qui auraient été moins durs que ceux-là peuvent fortement blesser. Et donc, ça m'intéressait de rebondir là-dessus aussi.
Alors, il y a des thématiques qui sont... assez grave, on parle d'abandon, on parle de violence, mais il y a aussi de l'amitié, de l'espoir, de l'amour.
Oui.
C'est un très beau livre et il y a une phrase notamment importante dans ton livre, c'est parfois uniquement quand on fait les choses qu'on réalise qu'on en était capable. Et cette phrase-là, je l'ai un peu sentie comme un mantra.
Oui.
Je ne sais pas ce que quand tu l'as écrit, voilà, ce qui t'est un peu passé par la tête, d'où est venue cette inspiration?
Là, pour le coup, j'y ai vraiment réfléchi parce que je me suis dit, bah, si dans mon livre, je voulais passer un message, quel serait-il ? Et en fait, je me suis rendu compte dans la vie de tous les jours, hein, il y a plein de gens qui n'osent pas faire les choses parce qu'ils se croient pas capables. Et souvent, c'est vrai, en fait, on se met des barrières soi-même. Et donc, c'est ça que j'ai essayé de transmettre, parce que j'ai déjà vu des gens, même d'ailleurs lors de séances de dédicaces, des gens qui m'ont dit « Mais c'est chouette que vous ayez écrit, oh, moi je rêve de le faire, mais je le ferai jamais, c'est pas possible. » Et donc j'avais déjà eu cette discussion avec des gens justement en disant mais qu'est-ce qui vous en empêche finalement ?» Et c'est vrai, moi ça a été mon cas aussi un peu au début, hein. Je pensais que l'écriture c'était réservé aux écrivains, et c'est mon mari qui m'a dit « Mais essaie, tu verras bien. » Et je me suis dit « Mais c'est vrai, qu'est-ce qui m'en empêche ?» Là, je me mets des barrières toute seule. Bah, j'essaie, et puis on voit après. Et ben, c'est une fois qu'on l'a réalisé qu'on se rend compte qu'on en était capable.
Et là, tu es la preuve, t'en as ton deuxième, bientôt troisième.
Oui, j'espère, troisième.
Et alors, cette phrase, elle est d'autant plus importante qu'elle est dite par une des personnages donc, qui est principale, qui s'appelle Karen, qui est l'amie. Enfin, qui devient l'ami de Maggie. Ce personnage de Karen, comment est-ce que tu l'as écrite et quelle a été ton inspiration ?
Bah, pour l'inspiration, que ce soit pour ce personnage ou pour les autres, en fait, on s'inspire de tout ce qu'on voit au quotidien. Hein. On dit toujours dans l'entourage des auteurs, attention, ce que vous me racontez, ça va finir dans mon livre, quoi. Parce que, voilà, on s'inspire de ce qu'on voit, forcément. Après, on brode, etc., évidemment. Mais, et j'avais envie de créer un peu un décalage aussi d'une femme au départ qui est un peu dans sa bulle, qui est égoïste, on peut dire. Hein. Elle vivait vraiment que pour elle. Elle était un peu superficielle et voilà. Et tout lui tombait tout cru dans le bec, j'ai envie de dire. Et voilà. Et que bah, je pense que c'était intéressant de voir qu'elle puisse se rendre compte petit à petit aussi que... Il peut y avoir des difficultés et puis c'est aussi ce qui fait la vie et c'est les richesses, c'est les échanges quoi. Elle qui se mettait un peu dans sa bulle, hors de tout le monde, bah finalement pour moi les amitiés sont hyper importantes et les échanges avec les gens et donc c'est ce que petit à petit je trouve, elle se rend compte de ça petit à petit et finalement je trouve qu'elle a une belle évolution.
Et alors justement pourquoi est-ce que tu as décidé de davantage la faire évoluer par rapport à Maggie dans l'histoire? Je parle non plus d'un point de vue surtout psychologique. Elle passe d'une femme seule, riche, dans une maison d'architecte, à celle qui se trouve une fibre maternelle et qui veut se battre pour aider les femmes victimes de violences conjugales.
Parce que ce sont deux femmes qui ont souffert, finalement. Sauf que Karen, elle cherchait un but à sa vie, en fait. Elle avait une vie qui était un peu vide, etc. Et donc, elle cherchait un but. Et en fait, elle n'a pas évolué toute seule. C'est aussi grâce à Maggie qu'elle a évolué, qu'elle s'est rendue compte que elle, ça lui faisait du bien d'aider les autres, etc. Et elle a trouvé son but, finalement. Elle a rempli sa vie et comme elle le souhaitait. Maggie, elle a évolué de façon différente. C'est vrai que ça a été un peu plus compliqué pour elle, mais elle a peut-être eu un peu plus de difficultés aussi. Elle a rencontré un peu plus de difficultés. Après, je pense que chacun évolue aussi à son rythme et que c'est aussi par période. Peut-être que pendant l'histoire de ce roman, Maggie évolue un peu moins et que ça va évoluer après. Enfin, voilà, je pense que c'est pas linéaire de toute façon, et chez chacun d'ailleurs, hein, dans la vie réelle, c'est la même chose.
Alors tu vas nous lire un extrait qui est un peu particulier. Avant que tu le fasses, tu vas nous lire un extrait qui parle de maternité, et justement dans ton livre, tu évoques beaucoup la maternité. Peut-on ne pas aimer son enfant? Peut-on ne pas en vouloir? Ou peut-on en vouloir mais ne pas réussir à en avoir? Est-ce que en parler fait partie de ce processus de deuil de la maternité que tu évoques dans ton premier roman, Une bougie de plus?
Alors c'est vrai que moi je ne peux pas avoir d'enfant, et donc c'est vrai que c'est pour moi une blessure, hein, vraiment une fêlure, tout ce que vous voulez. Mais après je pense que c'est important d'en parler. Et moi je me rends compte aussi, en discutant même avec des amis, etc., que en fait, la société fait que quand on a des enfants, tout est censé être rose et on ne doit pas dire quand ça ne va pas, on ne doit pas dire que parfois on en a marre, etc. Et je voulais pouvoir dire aussi là, c'était l'occasion par ce livre aussi de pouvoir montrer que par moment, oui, on a des enfants, mais on a le droit aussi d'être fatigué, d'en avoir marre et d'avoir envie que pendant une semaine, ils soient chez les grands-parents et qu'on ne s'en occupe pas. Et du coup, je suis même allée plus loin parce qu'effectivement, il y a aussi, on en entend aussi, hein, dans l'entourage, pas forcément proche, mais on entend aussi des gens parfois, des histoires même d'enfants qui ont des histoires familiales très compliquées et des gens qui n'aiment pas leurs enfants, quoi. Donc je voulais l'évoquer parce que je pense que c'est rare qu'on en parle et je voulais dire que ça existait, en fait. Donc c'est pour ça que j'essaie de donner la parole à un peu toutes les situations, si vous voulez. On a des enfants, ça peut être génial, effectivement. J'espère que c'est dans la grande majorité des cas, mais ça peut aussi être difficile. Il peut y avoir plein de situations et puis on peut aussi ne pas aimer notre enfant. Et donc, comment ça se passe dans ce cas-là? Comment on peut faire? Et voilà, donc je voulais l'évoquer, en tout cas.
Et justement, c'est l'extrait que tu as choisi de nous lire.
Oui, tout à fait. Karen était partagée entre un sentiment d'injustice et la compassion qu'elle éprouvait pour Maggie. Néanmoins, elle ne pouvait s'empêcher de reprocher à son amie son manque d'instinct maternel. « Maggie, tu ne peux pas laisser Tessa dans un tel état. » C'était la première fois depuis bien longtemps que quelqu'un d'autre que Martin prononçait le prénom de la petite. Maggie comprit les reproches de Karen, néanmoins, elle ressentait le besoin de lâcher prise. « Tu es fatiguée, mais dans ce cas-là, appelle-moi, je pourrais t'aider. »« Je ne l'aime pas, » souffla Maggie. Une grosse boule lui entravait la gorge. Celle-ci se serrait, devenant aussi dure que l'ivoire. Elle avait la sensation que sa trachée allait rompre. « Pardon ?» Cette grosseur était progressivement plus importante. Il était difficile pour la jeune femme de lui barrer le passage. Elle souffrait. Elle la retenait de toutes ses forces alors qu'elle avait de plus en plus de mal à respirer. Cette boule était dure. Elle allait lui faire exploser la trachée. Maggie était sur le point de la vomir. Elle avait chaud et la sensation que son corps était lourd. Elle suffoquait, se trouvait en apnée. Des lames lui transperçaient le gosier. La souffrance de son esprit dépassa la barrière de son corps et le mal de Maggie se révéla au grand jour. De la petite. « Je ne l'aime pas », réussit-elle à lâcher en éclatant en sanglots. Karen resta sans voix devant un tel aveu.
Quelle a été la chose la plus difficile à écrire dans ce livre?
C'est pas un passage en particulier, c'est vraiment la peur que ce soit pas réaliste ou que ça sonne faux, en fait. Parce que c'est pas une situation que j'ai vécue moi, en fait, donc c'est pas... C'est à partir du moment où c'est de la fiction, moi, ça m'a semblé plus difficile à écrire que l'autobiographie parce que je ne l'ai pas vécu moi-même. Donc, il faut imaginer ce qu'on ressent, il faut, etc. Et puis, il ne faut pas que ça reste trop superficiel. Donc, justement, j'ai essayé de, 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 de m'imprégner, de me mettre à la place de chaque personnage. Et puis, j'ai aussi, une fois que j'avais écrit, j'ai relu chaque passage en me mettant dans la peau de chacun. Une fois de Maggie, une fois de Karen, une fois du mari, une fois, etc. Pour vraiment voir, est-ce que c'est normal qu'ils réagissent comme ça? Est-ce que ça pourrait être la réalité, etc., etc. Donc, c'est ça qui a été le plus dur, que ça paraisse vraiment réaliste.
Et quel a été le plus facile?
Pour moi, le plus facile, je pense que c'est les dialogues. Parce que pour le coup, c'est ce qu'il y a dans la vie de tous les jours. Et donc, ça a été... Je pense que c'est ça qui était le plus facile. Et aussi, le dernier passage, que je ne vais pas divulguer, mais le dernier passage du livre, justement, parce qu'on lâche tout et on on est à fond dans les sentiments et moi c'est vraiment les sentiments qui me tiennent à cœur, donc les émotions, etc. J'ai bien aimé écrire le tout dernier passage.
L'épilogue, c'est le seul qui est nommé, il n'y a pas de chapitre, oui. C'est un choix que tu as fait d'ailleurs.
Oui, j'avais pas envie de mettre les lecteurs dans un moule au départ avec un titre, je trouve que ça laisse la liberté à chacun, voilà.
Et avant qu'on commence cette interview, tu m'as parlé aussi de l'inspiration première quand tu as écrit ce livre. C'est parti d'un fait d'actualité?
Oui, tout à fait. En fait, comme je disais, on s'inspire de ce qu'on voit, etc. Et donc, effectivement, au départ, c'était pas vraiment l'histoire de la reconstruction d'une femme sur laquelle j'étais partie. C'était surtout par rapport au squat de maison. J'avais entendu dans l'actualité qui s'était fait voler sa maison, en fait, par des squatteurs qui ne voulaient pas lui rendre, etc. Et que c'était vraiment un combat tous les jours, etc. Et donc, je me suis posé la question de comment est-ce qu'on en arrive là? Et aussi, les personnes qui squattent, pourquoi, en fait? Pourquoi elles squattent? Comment elles en sont arrivées à cette situation, etc. Et donc, j'ai voulu explorer cela. Et donc, au départ, mon histoire, c'était vraiment par rapport au squat. Et puis, en fait, finalement, ça s'est étoffé, etc. Et donc, je suis partie plus sur la... Ça en fait partie, mais... Plus, du coup, sur la reconstruction de cette Maggie.
Et alors maintenant, il y a un troisième livre qui est en cours d'écriture.
Oui.
Est-ce que tu peux un peu nous parler brièvement peut-être de ce début d'écriture et surtout la nouvelle inspiration peut-être que tu as eue?
Oui, alors là, l'inspiration, elle était différente. C'est tout simplement, un jour, j'étais... On se baladait avec mon mari dans une rue et il n'y avait pas beaucoup de passages pour passer. Enfin bref, donc on était un peu plus éloignés. Et il me dit, et tu te rends compte si là, il y avait une camionnette qui s'ouvre et puis quelqu'un qui t'enlève? Comment je fais? Et voilà, tout est parti de là. Et je me suis dit, il aime bien partir des fois dans des histoires. Et on rigole. Mais sauf qu'en fait, je ne sais même pas s'il le sait que je suis partie de là. Mais du coup, je me suis dit, et si? Justement, en fait, toutes les questions pour créer une histoire, c'est le « et si ? » Et si il se passait ça? Et puis, en fait, si après, il se passait autre chose? Et donc, je suis partie de là. Et en fait, mon histoire est sur l'histoire d'un enlèvement, mais d'un enfant. Voilà. Donc, c'est tout. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais c'est là, pour le coup, il y a plus d'enquêtes, etc., pour essayer de retrouver tout ça. Mais il y a toujours... pas la maternité, du coup, mais quand même l'histoire d'un enfant et puis d'une adoption d'enfant aussi dans l'histoire, etc. Enfin, voilà.
Et donc là, tu es toujours dans la fiction, mais sur un côté peut-être plus enquête.
Voilà, tout à fait.
Ok. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas encore découvert Le Coucou de Papier, ton deuxième livre que tu es venu nous présenter aujourd'hui, ou qu'ils connaissent peut-être déjà et qu'ils l'ont adoré, tu seras en dédicace le 7 mars au Salon du Livre de Salouel.
Oui.
Où est-ce qu'on peut suivre tes actualités? Est-ce que tu as d'autres dates?
Alors là, pour l'instant, normalement, je devrais être en dédicace au mois de juin aussi, dans un petit village de l'Oise, mais c'est pas encore bien bien fixé. Par contre, vous pouvez retrouver toute mon actualité sur mon site internet www.cécile-berger.fr.
Super, merci beaucoup Cécile.
Merci beaucoup.
Aujourd'hui le ciel est bleu, il fait que me tendre. Donc leurs actions, elles sont réglables.
C'était Épouvantail d'Unisature, toujours dans Info Club Sandwich sur Radio Campus Amiens. Le samedi 7 et dimanche 8 mars, à la salle des fêtes de Cardonnette à Kerrieux, de 10h à 17h30, la Comédie de Picardie vous invite à créer des œuvres plastiques et ou à lire des textes sur la nature en vue de la création d'un parcours déambulatoire qu'ils présenteront à un public. Les œuvres plastiques créées lors de ces jours de stage ont vocation à rester pérenne et faire partie intégrante de la commune. Deux intervenantes seront présentes, Stella Serfati pour accompagner les lectures et Lucie Joliot, plasticienne et scénographe pour accompagner la création des œuvres plastiques. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le CIDFF 80, donc le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, crée un moment unique pour mettre à l'honneur des femmes entrepreneuses locales autour de dégustations sucrées avec un pass gourmand solidaire. Un véritable temps d'échange avec des entrepreneuses féministes pour partager leur parcours, leurs expériences, leurs défis et leurs réussites. Et parce que cet événement a du sens, une partie des ventes sera reversée au CIDFF. Rendez-vous donc ce samedi 7 mars au 50 rue Riolan à Amiens. L'entrée est gratuite et ouverte à tous. Good news pour les étudiants, les repas à 1 euro pour tous arrivent très prochainement. Le réseau des Crous s'engage sur la qualité des repas et prépare l'opérationnalisation de la mesure. Le gouvernement s'est engagé à la mise en place d'un repas à 1 euro pour tous les étudiants et c'est à partir du mois de mai prochain. Ce samedi a lieu le Salon du Livre de Salouel à la salle des events de 10h à 18h. Cette édition propose 67 auteurs, des éditeurs, des stands de librairie aminois et des expos ainsi qu'expos ventes et des stands associatifs de la bibliothèque de Salouel et Lire et Faire Lire 80. Voilà tout pour les actus du jour. Je vous annonce avant de terminer cette émission que nous serons en direct de Mille et Une Bières ce soir sur Radio Campus Amiens à partir de 21h pour l'ouverture du Amiens Bière Festival qui aura lieu tout au long du week-end au Hall Fraissiné situé derrière la gare. Puis ce dimanche 8 mars, donc à l'occasion de la Journée des droits des femmes, vous retrouverez une programmation spéciale toute la journée sur Radio Campus Amiens. Des émissions variées autour du thème seront à retrouver sur le 87.7 FM, le DAB+, et radiocampusamiens.fr évidemment. Et voilà, j'ai tout dit, c'est qu'il s'en passe des choses ce week-end et ça fait plaisir, on sait que le printemps approche à grands pas. On se quitte en écoutant Watch the Corners de Dinosaur Jr. et à la semaine prochaine sur Radio Campus Amiens. We'll be right back.
Watch me, 'cause I know what you've done.